Alors, dernière table ronde. Moi, je ne vais pas faire une introduction très longue parce que je préfère éventuellement commenter ce qui aura été dit que dire ce qu'ils vont dire, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a fait une sorte de grand zoom avant dans cet après-midi. Hein, au départ, on a eu une réflexion sur la diversité des témoignages, sur les différents types de témoignages. Dans la dernière séance, on a commencé à parler un peu plus des médias et des stratégies utilisées par les médias. Cette fois-ci, on va carrément rentrer dans le journalisme et spécifiquement du journalisme d'image. Donc, on est finalement au dernier terme du programme, un terme qui a été finalement peu employé, qui est image de l'information. Hein, image de l'information. Donc, je vais d'abord céder la parole à Cédric Terzi, qui est maître de conférence à Lille 3, qui a beaucoup réfléchi sur le journalisme et qui va donc nous parler à présent de les exigences du témoignage. Comment refonder la critique du journalisme d'image?
Merci. Dans son invitation au colloque, Daniel Dagnan nous demandait à explorer ce que pourrait être une éthique de la monstration publique. Cette proposition suppose deux choses qui me semblent ne pas aller de soi. La première, c'est que les images participent d'un acte de montrer dont elles ne seraient qu'un aspect ou un moment. La deuxième chose, c'est que toutes les manières de montrer ne se vaudraient pas et qu'il serait possible d'en faire la critique. Ces deux préalables sont loin d'aller de soi. D'une part, parce que la tradition sémiologique nous porte à considérer que les images font sens par elles-mêmes et donc à les analyser indépendamment des activités auxquelles elles sont intégrées. D'autre part, parce que dans le domaine du journalisme d'image, la sémiologie a contribué à un effort de déconstruction qui n'avait de critique que le nom. Il s'est principalement agi de porter le soupçon sur toute prétention à rapporter fidèlement une situation ou un événement, ce qui permettait de dénoncer un effet de réalité qui reposerait en dernière analyse sur des procédés narratifs, sur des opérations symboliques ou sur des mécanismes de domination. Ces travaux nous ont donc appris à nous méfier des images, et il en a résulté une sorte de capitulation normative. Dès lors que la ressemblance des images n'est qu'une illusion à démasquer ou à déconstruire, il n'y a guère de sens à se demander ce que pourrait être une bonne photographie, un bon reportage télévisé ou un bon film documentaire. Ce désarroi normatif n'est pas l'apanage du journalisme d'image. Une crise similaire a vu le jour dans le domaine de l'écriture ethnographique suite aux soupçons de fabrication de la réalité sociale portés par la mouvance du tournant linguistique. Dans ce domaine-là aussi, il en a résulté un renoncement à fonder une culture évaluative explicite. Afin de remédier à cette situation, le sociologue Jack Katz est parti d'une observation simple. Si aujourd'hui aucun ethnographe n'est disposé à articuler des principes évaluatifs explicites, il n'en demeure pas moins que les sociologues et les ethnologues continuent dans le cadre de leur travail à prendre appui sur une sagesse pratique pour évaluer la qualité de leurs données et de leurs descriptions. Jack Katz se donne alors pour tâche de prêter attention aux expressions ordinaires que les ethnographes utilisent pour évaluer la qualité descriptive de leurs données. Ce repérage lui permet ensuite d'expliciter les principes normatifs engagés par ces expressions ordinaires, de manière à les mobiliser pour fonder une culture évaluative explicite. Le travail de Jack Katz me servira ici de source d'inspiration. J'en tire la proposition suivante. Si nous sommes embarrassés s'agissant de fonder une critique explicite du journalisme d'image, il n'en demeure pas moins qu'une communauté de jugements ordinaires existe au sujet des photographies de presse, des reportages télévisés ou des films documentaires. Je vais maintenant tenter d'expliciter quelques aspects de cette sagesse pratique et d'en dégager quelques principes normatifs propre à renouveler la critique du journalisme d'image. Alors, l'essentiel de mon propos portera sur les rapports entre l'image et le témoignage. Roland Barthes a dégagé ce qu'il a le « ça a été » comme noème de la photographie. Dans son sillage, de nombreux auteurs ont insisté sur le pouvoir d'authentification emporté par les images photographiques et filmées. Une analogie trop rapide pourrait nous porter à en tirer que l'image photographique ou l'image filmée serait des témoins de ce qu'elle représente. Le cœur de l'argument que je vais m'efforcer de déployer maintenant consistera à élucider les relations entre images et témoignages. Pour l'essentiel, j'indiquerai qu'il n'y a pas d'analogie entre l'image et le témoignage. En revanche, ils entretiennent un rapport indirect, fondé sur des propriétés communes. Premièrement, les images comme les témoignages tirent leur intelligibilité de leur ancrage dans un monde pratique. Deuxièmement, les images comme les témoignages tirent leur force d'authentification du fait de leur attachement à une perspective singulière sur ce monde pratique, laquelle est fondée en dernière instance sur le corps perceptif qui est à leur origine. Afin de donner un fondement empirique à cette élucidation des relations entre images et témoignages, je vais prendre appui sur des enquêtes publiées, que je n'ai pas effectuées moi, consacrées à un cas dans lequel des images télévisées ont été mobilisées à des fins testimoniales dans le cadre d'un procès. J'attacherai une grande attention à la manière dont des jugements ont été portés sur la qualité des images, sur la légitimité de leur contribution à une activité testimoniale et sur le dénouement de la procédure. Le cas en question est ancien, c'est celui de l'affaire Rodney King. Elle remonte au 3 mars 1991. Ce jour-là, Rodney King, un automobiliste afro-américain, a été interpellé pour excès de vitesse. Les 4 officiers de la police de Los Angeles qui ont procédé à son arrestation l'ont violemment battu avec des matraques métalliques. Il se trouve qu'un jeune homme, situé de l'autre côté de la route, était par hasard muni de la caméra vidéo que ses parents venaient de lui offrir et qu'il a filmé de la manière dont les policiers ont battu Rodney King alors qu'il était à terre. La diffusion de ces images à la télévision a soulevé une indignation publique unanime et les 4 officiers de police impliqués dans le passage à tabac ont été poursuivis pour usage excessif de la force. Lors de leur procès, le principal élément de preuve était l'enregistrement vidéo du passage à tabac. Jacques Derrida a travaillé sur ce cas dans le cadre d'un séminaire qu'il a consacré à l'intervention des techniques dans le dispositif judiciaire de l'instruction et du jugement. Le principal enseignement qu'il a tiré de cette affaire est la nécessité de ne pas confondre le témoignage et les images, lesquelles ne relèveraient selon lui de l'indice, de la pièce à conviction ou de la preuve. Derrida a été son argument en prenant appui sur la sagesse pratique du tribunal qui, malgré l'indéniable force d'authentification emportée par ces images, a refusé de les considérer comme un témoignage de plein droit. Je cite Derrida. « La loi n'a pas tenu ce film pour un témoignage au sens strict et traditionnel du terme. C'est une pièce à conviction à interpréter, mais le témoignage ne pouvait être que le témoignage du caméraman, ce jeune homme qui avait la caméra et qui, lui, venait devant la barre 10 ans de vive voix après avoir décliné son identité et parlant sans représentant à la première personne, je jure de dire la vérité. Il témoignait alors, il était au moins censé le faire, de ce qu'il pensait de bonne foi avoir vu, lui-même, une caméra, un dispositif technique impersonnel, ne pouvant servir de témoin. » Sans surprise, Jacques Derrida traite le témoignage comme un phénomène discursif, porté par une déposition à la première personne. C'est précisément ce qui le conduit, trop radicalement il le reconnaît lui-même, à poser l'hétérogénéité absolue de l'image et du témoignage. Pour ma part, j'ai plutôt été convaincu par les travaux de Renaud Dulon, qui ont fait apparaître que le témoignage oculaire est un mode d'attestation personnelle qui est fondé en amont de tout discours, sur l'existence d'un corps perceptif exposé à un événement ou à une situation. Cette différence entre Derrida et Dulon ne devrait cependant pas occulter un point d'accord décisif. Jacques Derrida et Renaud Dulon se rejoignent pour considérer le témoignage comme une procédure d'établissement des faits qui tire sa force de conviction de son ancrage dans une perspective singulière sur le monde pratique. Cette observation me permet de revenir un instant sur l'analyse des photographies par Roland Barthes. Sa démarche sémiologique l'a poussé à localiser la force d'authentification des photographies à l'intérieur d'elle-même, ce qui l'a conduit, à mon sens, à surestimer l'importance du procédé physique et technique de fixation de la lumière qui préside à leur fabrication. Ce que nous indique la sagesse pratique du tribunal, c'est que les images photographiques et filmées tirent une part de leur force d'authentification de l'extérieur d'elles-mêmes. Si les images attestent de quoi que ce soit, ce n'est pas seulement en raison de leurs propriétés techniques, mais surtout parce qu'elles font nécessairement référence à une perspective singulière, ancrée dans un champ pratique. On pourrait dire en quelque sorte que l'image filmée ou photographique garde la trace sensible de l'exposition d'un corps perceptif à une scène, ce qui est le fondement même de la possibilité d'en témoigner. Plus précisément, ces images font en quelque sorte signe vers le corps perceptif de celui qui les a prises, lequel se trouve ainsi habilité à fournir une attestation personnelle de ce que ces images représentent. Ce n'est donc pas une technique abstraite ou désincarnée qui confère leur force d'authentification aux images, elle est au contraire fondée en référence à une perspective située qui ne peut être attestée en dernière instance que par le témoignage oculaire de l'auteur des images. Les remarques de Derrida sont décisives, mais elles ne font que la moitié du chemin. Rappelez-vous, les images du tabassage de Rodney King ont soulevé une indignation unanime. Et pourtant, ces images, même attestées par le témoignage de leur auteur, n'ont pas suffi à convaincre le jury lors du procès. En première instance, les 4 officiers de police ont été acquittés, ce qui a soulevé une vague d'incompréhension et un sentiment d'injustice qui ont débouché sur des émeutes violentes dans les rues de Los Angeles. Malgré l'émotion nationale et internationale suscitée par cette décision, elle n'a été que partiellement rectifiée lors du procès fédéral de 1993. 2 des 4 policiers ont été condamnés pour avoir violé les droits civils de Rodney King. Les 2 autres ont été acquittés. Pour éclairer cet étonnant dénouement, Charles Goodwin a conduit une analyse détaillée du procès. Je retiendrai ici que l'articulation principale. Il en ressort que des images filmées, attestées par le témoignage oculaire de leur auteur, peuvent malgré tout donner lieu à ce que Goodwin appelle une vision contestée. D'un côté, l'accusation a traité les images du passage à tabac de Rodney King dans une perspective similaire à celle des spectateurs indignés suite à leur diffusion télévisée. Pour le procureur, ces images étaient une prise directe du vivant. Elles étaient l'enregistrement auto-explicatif. Ce qui l'a conduit à dire au jury, je le cite, « Que pourriez-vous demander de plus? Vous avez la cassette vidéo qui montre objectivement, sans biais, impartialement, ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle ne peut pas être réfutée. » Lors du procès, le procureur a découvert que cette perspective n'était pas la seule possible sur ces images. C'est donc en quelque sorte à ses dépens que nous allons prendre une nouvelle leçon de sagesse pratique. Les avocats assurant la défense des policiers n'ont aucunement tenté de réfuter la véracité des images, ni de leur opposer d'autres éléments de preuve. Contre toute attente, ils en ont au contraire fait l'élément décisif de leur dispositif de défense. La procédure à laquelle ils ont recouru a consisté à traiter les images non pas comme une prise directe du vivant, ce qui était la perspective du procureur, mais comme un dispositif technique qui leur permettait de réitérer à loisir le flux de l'action et surtout de le découper en séquences et d'en tirer des images fixes. L'adoption de cette perspective les a autorisés à analyser les images, c'est-à-dire à décomposer ce qui les constituait et à les traiter indépendamment de la situation qualitative qui était à leur origine. D'une part, le séquençage des images leur a permis de montrer que ce qui apparaissait comme le déroulement continu d'un passage à tabac, brutal, pouvait être analysé, décomposé, comme une succession de 10 séquences d'actions-réactions distinctes, marquées par une progression et une régression du recours à la force, dont l'intensité était proportionnée à l'attitude du suspect. Cette décomposition séquentielle de l'action a ainsi permis de montrer au jury que là où le commun des mortels ne voyait que le passage à tabac d'un innocent, le regard exercé d'un policier pouvait voir une réponse graduée et proportionnée à la menace exercée par un contrevenant. La perspective analytique n'autorise pas seulement le découpage séquentiel des actions. Il invite également à décomposer les perspectives constitutives de la scène d'origine. Dès lors que les coups des policiers ne sont que des réponses au mouvement de Rodney King, la juste interprétation des images requiert d'adopter la perspective des policiers. C'est dire que les images appellent l'exercice de ce que Goodwin appelle une vision professionnelle, ce qui a permis aux avocats de solliciter le témoignage d'un expert en technique policière. Charge alors à cet expert d'enseigner au jury cette vision policière qui consiste à focaliser l'attention sur les mouvements du corps du suspect, lesquels doivent être saisis comme autant de signes d'agressivité ou de coopération, appelant respectivement à une accentuation ou à une régression du recours à la force. Les conséquences de cette décomposition analytique de la scène par le recours technique aux images apparaissent nettement lors de l'interrogatoire de l'expert par le procureur. À ce moment, ils viennent de visionner un passage de la vidéo montrant Rodney King à terre, levant sa main droite derrière son dos, la paume en l'air. Le procureur, c'est la position que vous voudriez qu'il adopte, sous-entendu, pour lui passer les menottes. Est-ce correct ? L'expert, non, pas de cette manière, avec sa jambe est pliée dans cette région. S'il avait bougé sa main en se tenant droit en haut et en bas, mais ça me préoccupe. Le procureur, et est-ce que ça vous préoccupe aussi que quelqu'un lui marche sur l'arrière de la nuque ? L'expert, non, ça ne me préoccupe pas. Cette controverse de vision polarisée autour des images du tabassage de Rodney King nous offre un nouvel enseignement de sagesse pratique. Il en ressort que nous nous exposerions à de sévères déconvenues si nous pensions que les images revêtent automatiquement le statut de preuve univoque lorsqu'elles sont attestées par le témoignage oculaire de leur auteur. C'est dire que si les images revêtent leur force d'attestation en faisant signe vers la perspective singulière d'un corps perceptif exposé à la situation qu'elles représentent, elles ne deviennent des preuves qu'à condition que la perspective sur le monde pratique qu'elles fournissent soit reconnue par ceux auxquels elles sont adressées, que ceux-ci l'endossent et surtout qu'ils agissent en conséquence. Or, il n'est jamais garanti qu'il en aille ainsi, ne serait-ce que parce que les images photographiques ou filmées sont toujours disponibles à leur réification, c'est-à-dire qu'elles n'opposent aucune résistance interne à leur utilisation comme de simples objets techniques, sans considération pour le monde pratique dont elles sont tirées et auxquelles elles font référence. Il est temps maintenant de ramasser mon propos. Je vais rapidement énumérer les sagesses pratiques recueillies au fil de mon parcours et voir s'il est possible d'en tirer quelques principes pour une éthique de la monstration propre à fonder une critique du journalisme d'image. Alors donc d'abord, trois sagesses pratiques sur la force d'attestation des images. La première, alors je la tire du statut que le tribunal a attribué aux images du tabassage de Rodney King, qui fait apparaître que les images ne témoignent de rien par elles-mêmes. Leur force d'authentification n'est pas fondée sur une technique isolée, sur une technique isolée et autosuffisante, mais sur une technique ancrée dans le monde pratique. Concrètement, les images photographiques et filmées revêtent une force d'authentification parce qu'elles font signe vers une perspective située dont seul peut témoigner l'auteur des images. C'est dire que si les images ne témoignent de rien par elles-mêmes, elles peuvent être intégrées à l'acte de témoigner dont elles deviennent un facteur, c'est-à-dire l'un des éléments qui entre dans sa composition. Deuxième sagesse pratique, le travail des avocats qui a débouché sur l'acquittement des policiers en première instance fait apparaître que la force d'authentification des images est une potentialité qui ne trouve à se réaliser que dans ses interprétants, c'est-à-dire dans ce que l'on fait de ces images. Plus précisément, cet exemple a montré ce qui se passe lorsque les images sont traitées comme des objets techniques. Nous avons en particulier vu que cette perspective permet de procéder à la décomposition du monde vécu, c'est-à-dire à la décomposition de l'environnement organisé qui confèrent leur sens aux images. Alors pour conclure, quelques principes pour une éthique de la monstration. L'ensemble de mon cheminement peut être lu comme un plaidoyer contre la réification des images, c'est-à-dire contre leur production et contre leur utilisation comme de simples objets techniques, indépendants du monde vécu dont elles sont issues et auxquels elles font référence. J'en tirerai brièvement trois principes normatifs. Premièrement, contre le scepticisme post-structural, je pense qu'il faut affirmer que les images photographiques et filmées engagent la responsabilité de leurs auteurs, notamment parce que c'est sur la référence au corps perceptif de ces derniers qu'est fondée en dernière instance leur force d'attestation. Ce principe me paraît particulièrement pertinent s'agissant d'analyser ce qu'il advient du pouvoir d'attestation des images lorsqu'elles sont détachées de leur monde pratique d'origine pour circuler librement sur des réseaux qui leur confèrent une nette autonomie par rapport à leurs auteurs. Ce questionnement me paraît également valoir s'agissant d'évaluer les conséquences de la multiplication de systèmes de prise de vue automatique dans l'espace public. Deuxième principe, s'opposer à la réification des images, ce n'est pas seulement résister à leur production en tant qu'objet technique, mais également à leur réception en tant que telle. C'est donc dire que les images ne doivent pas perdre leurs ancrages dans un monde pratique qui n'est pas seulement celui de leur origine, mais également leur destination. C'est dire que des images devraient être organisées de manière à fournir des prises propres à enrichir notre compréhension du monde pratique et notre capacité à y agir. Encore faut-il rappeler que de telles prises ne sont pleinement réalisées qu'à condition que quelqu'un s'en saisisse. Ce qui revient à dire que l'évaluation des images comporte un moment éminemment pratique qui concerne la manière dont elles sont intégrées au travail de refiguration du monde vécu. Pour conclure, mon plaidoyer contre la réification des images est animé par l'analyse de leur force d'authentification qui se noue au croisement d'une technique de production et d'une perspective singulière ancrée dans le monde vécu. J'ai souligné que cette analyse s'oppose à une lecture positiviste des images qui consisterait à les réduire à la seule objectivité abstraite qui leur est fournie par une technique de production. Réciproquement, cette analyse va à l'encontre d'une lecture relativiste des images qui reviendrait à les réduire à la subjectivité d'une perspective qui échapperait à tout partage. Il me semble que cette double opposition au positivisme et au relativisme plaide pour ce que j'appellerais une lecture publique des images. Je suggérerais donc de dire que c'est en tant que chose publique que les images revêtent leur force d'authentification. Dire qu'une image est une chose publique, c'est exiger que sa perspective soit ouverte, disponible pour quiconque entend la mobiliser afin d'enrichir sa compréhension du monde pratique et sa capacité à y agir. Mais c'est simultanément exiger que cette perspective reste ancrée dans la singularité qui la fonde, de manière à toujours offrir les prises nécessaires pour l'individuation de leur auteur. Il me semble que la formulation de cette double exigence recoupe l'appel lancé par ma voisine, Marie-Josée Mondzin, en faveur d'images qui soient les incarnations de ce qu'elles représentent, et donc qu'elles soient tenues à distance de toute tentative de ce qu'elle appelle une incorporation, qui écraserait la distance nécessaire à la formation d'un jugement ou d'une opinion, mais également à distance de toute opération de réification qui ferait de l'image une abstraction disponible à toutes les manipulations. Je vous remercie.
Bravo, vous êtes tenu en 20 minutes. Je trouve votre exposé très intéressant, mais la réification des images, la sémiologie, il y a longtemps qu'elle ne la fait plus quand même. Vous êtes un peu dur là. Avec la sémiologie depuis Barthes a fait beaucoup de textes quand même. Maintenant on va passer à un autre point de vue, donc celui de John Pond-Lepers qui est professionnel, parce que nous sommes pas professionnels, mais on est professionnel d'autre chose en tout cas. On fait pas les images, on en parle. Là on a quelqu'un qui en fait, donc qui a été journaliste, reporter et maintenant producteur, non ?
Oui, producteur. Je continue à être journaliste.
Voilà. Et donc, il va nous parler de son point de vue, du témoignage dans sa pratique.
Oui. J'espère. Enfin, je ne suis pas de votre monde. En vous entendant, je me dis que je ne suis pas de votre monde. En même temps, ça m'intéresse de vous écouter, mais je ne pense pas comme vous. Je pense. J'essaye. Moi, je suis un fabricant d'infos. Donc, quand je fabrique de l'info, je me pose des questions qui sont des questions éthiques et des questions journalistiques, des questions techniques. Et donc, j'ai tout ça financière maintenant. J'ai tout ça dans ma tête quand je fabrique des choses. Et la fabrication, ça va de la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à le vendre à un diffuseur ou à un rédacteur en chef? Comment y aller et comment rencontrer des gens, comment les convaincre de parler, comment les ceux qui ne veulent pas parler, comment les coincer. Et puis ça va juste ensuite, il faut revenir avec ces images en ayant à la fois plusieurs responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de celui qui doit transmettre des témoignages. Donc, mon rôle n'est pas de travertir, et surtout de ne pas travertir ce que les gens m'ont dit ou ce que j'ai vu. J'ai cette responsabilité, et puis j'ai une responsabilité qui est celle de celui qui montre à d'autres qui n'étaient pas là où j'étais et qui doivent au moins comprendre ce que j'ai pu voir. C'est pour ça que je pense que les principes d'objectivité, l'objectivité a été abordée lors de ces rencontres cet après-midi. Je pense que l'objectivité est quelque chose qu'on doit poursuivre, mais je pense que ça n'existe pas. C'est un peu comme Dieu, c'est la plus belle invention de l'homme, et qu'on doit y aller éventuellement. Mais bon, le principe, donc là, c'est l'honnêteté que moi j'essaie de défendre en tant que fabricant d'infos. L'honnêteté vis-à-vis de gens qui regardent, de gens que je filme ou qui me confient des témoignages. Voilà. Quand on m'a demandé de participer à cette réunion, j'ai hésité parce que je me suis dit, ben, je ne sais pas très bien si je vais être au niveau de vos débats. Et puis je me suis rappelé d'une expérience personnelle, donc j'ai écrit ça en quelques lignes, je peux vous le raconter, c'est parce que c'est un moment important dans l'histoire d'un journaliste. C'est en gros quand il se rend compte qu'il a dit des grosses bêtises et que quoi faire quand on a dit des bêtises. C'était en 90, au janvier 90, c'était la crise roumaine qui avait été couverte à la fin du mois de décembre, début janvier, très très largement par la télé, et pour la première fois d'ailleurs, à travers la télévision roumaine, qui avait été prise par les insurgés, le monde disposait d'un robinet d'images, d'un flux d'images absolument inédit, c'est-à-dire qu'on vivait ce qu'on appelait la révolution roumaine. Après, on verra que c'est plutôt un truc qui a été manipulé pour renverser le couple Ceausescu, et que c'est les mêmes personnes qui ont pris le pouvoir et qui avaient préparé cette histoire. Mais bon, peu importe. On disposait donc de ce flux d'images en direct, et je ne sais pas pour ceux qui certains s'en souviennent, la 5 avait à sa disposition donc des images gratuites. C'est très important. Ces images donc ont fait pratiquement son programme pendant une semaine. Et on a pu assister à cette révolution en direct. Le problème, c'est exactement ce que disait mon Cédric tout à l'heure, c'est qu'on ne savait pas qui filmait. Et que ces images arrivaient chez les gens, chez nous les journalistes, dans les rédactions, avec juste la force du témoignage. C'est clair, parce qu'on voyait des combats, on voyait des tirs, donc on sentait que c'était grave la situation là-bas. Mais on ne savait pas qui les avait faits. Et un journaliste ne peut pas diffuser une image sans qu'il ne sait qui a fabriqué cette image et dans quelle si cette image n'a pas été faite dans une mauvaise intention, enfin dans une intention de manipulation. On est nous tenus à faire attention à toutes les manipulations et toutes les pressions qui sont faites autour de nous. Et je me souviens donc, j'avais été dans une deuxième vague de... J'avais pas voulu aller au début parce que je passais Noël avec mes enfants. Mais je connaissais la Roumanie parce que j'avais été en clandestin en mois de juin dernier. Et je suis allé au mois de janvier. Et j'ai, comme mes collègues, répété les erreurs qui ont été dites à l'époque, notamment sur le charnier de Timișoara, qui avait été montré à la télévision roumaine. Et des chiffres qui allaient de 60 000 morts à Timișoara à 200 000 morts en Roumanie. C'était donc un massacre terrible. Et nous nous sentions légitimes, nos journalistes, pour nous insurger contre cette situation. Et le monde entier, avec nous, nous avait fait confiance. Et quand on ferait à mesure du temps qui est passé, on se rendait compte que où étaient ces 200 000 morts, où étaient ces 60 000 corps à Timisoara, on ne les trouvait pas. Et pourtant, les images étaient là. Les images, on commençait à compter les corps. Effectivement, on voyait 20, 30 corps. Mais les gens nous assuraient. Moi, j'étais à Bucarest et à Timisoara. Les gens, je cherchais, mais où ils sont? Et on nous a dit, ils ont été brûlés, ils ont été mis dans des fosses. On n'arrivait pas à les voir. Et il se trouve que... Bon, donc, bien sûr, nous, journalistes, on se pose la question, mais c'est pas possible. Et je me rappelle avoir été... Il y avait un congrès où il y avait Bernard Kouchner qui était là, et il avait dit des choses plutôt intelligentes, cette fois-là, à ce congrès. Et il avait dit, un médecin... un médecin sait que quand il y a 60 000 morts dans une ville, il y a 200 000 blessés. Donc, parce que le ratio de quand on tire dans une foule, il y en a 1 sur 3 qui meurt. Le reste, il est blessé. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans les hôpitaux. Et lui, il avait été dans les hôpitaux. Il était à Bucarest dans les hôpitaux, pas à Timișoara, mais il y avait quelques dizaines de personnes blessées ou quelques centaines, mais on était très loin du compte. Donc, par exemple, ça, cet enseignement, moi, c'est vrai que la prochaine fois, j'irai voir dans les hôpitaux, voir s'il y a effectivement des blessés. Bon, voilà. En fait, je vais pas vous raconter cette histoire qui est une histoire passionnante pour un journaliste, qui en même temps, un problème pour un citoyen qui se dit, j'ai dit des bêtises. Et un journaliste qui se dit, j'ai failli à mon devoir d'informer. Et donc, avec moi, j'étais avec David Pujadas à l'époque dans la rédaction de TF1. C'était TF1, je crois que c'était encore public à l'époque, où ça venait d'être privatisé. Enfin, moi, j'étais rentré dans une entreprise publique et on faisait le métier de la même manière. Et je me souviens qu'on avait, en conférence de rédaction, on avait dit, il y a ce congrès avec Kouchner. Nous, on veut faire un reportage rectificatif. On était au mois de mai-juin, donc 5-6 mois après les faits et après nos erreurs. Et je me souviens très bien qu'on nous avait dit, mais tu es fou parce que tu vas décrédibiliser la rédaction. T'as fait des erreurs, tu te tais. C'est pas grave, nous aussi on en a fait des erreurs et la prochaine fois tu... Je lui ai dit, mais non, il y a un vrai problème, on peut pas dire ça, on peut pas... Et je disais, au contraire... reconnaître, parce que c'était connu de toute manière, publiquement on savait que ces chiffres étaient faux, publiquement il y avait donc des journaux qui avaient raconté leurs histoires, raconté notamment à Libé comment ils avaient transformé ce qu'avait dit leur journaliste qui était sur place, sur la foi de Dépêche, puisqu'on s'était aperçu entre-temps que des agences roumaines, yougoslaves, qui existaient encore, et hongroises, en fait manipulées par Moscou, donner des chiffres, ces chiffres-là, qui avaient été repris de bonne foi par ces journalistes, par l'AFP et par nous. Donc ça, on voulait l'expliquer. Comment on avait été, nous, manipulés et comment, en fait, on n'aurait pas dû envoyer un tel chiffre. Étant sur place, on aurait pu vérifier. Voilà. Et on a pu diffuser quand même, fabriquer ce reportage contre l'avis de la rédaction, avec le soutien de Michèle Cotta, qui était directrice de l'information à l'époque, qui nous prenait pour des fous, mais... qui disait, bon, si vous avez envie, allez-y. Après tout, c'est vous qui allez être mouillé dans cette histoire. Et on a fait ce petit reportage rectificatif, qui était très peu de choses par rapport à l'énormité de ce qu'on a, de la somme d'informations qu'on a passées, le nombre de sujets où on a donc raconté des erreurs. Mais on tenait à le faire. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, d'ailleurs, les sondages... Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, notre action, mais dans l'opinion publique, la confiance dans les médias, et notamment dans les médias audiovisuels, ne cesse de dégringoler. Je pense qu'on là, on est à quoi, 40% des gens qui pensent qu'on dit à peu près la vérité, quoi. Et donc, cette question reste posée, et il est clair que le rectificatif... En télévision est quelque chose d'extrêmement rare. Et on nous dit toujours la même chose, c'est de l'autoflagellation, tu vas décrédibiliser notre antenne, et voilà. Donc, c'est vrai que moi, je continue à travailler dans les chaînes de télévision, non plus dans le journal d'information, mais dans des magazines, dans des documentaires, et je suis confronté à d'autres difficultés, de formatage, d'écriture obligatoire, de laisser parler les gens un temps très court, de faire des commentaires constamment qui vont prémâcher le travail, en tout cas intellectuel, de celui qui nous regarde. Et c'est pour ça que je continue à travailler pour la télé, parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais que j'ai créé une chaîne de télé sur Internet qui s'appelle latélélibre.fr, dont je peux vous parler si vous le voulez, mais j'ai d'autres choses. Maintenant, j'aimerais savoir dans quel sens ça... Oui.
Moi, je voudrais juste vous demander, relancer sur une chose. Dans cette histoire de Timi Chouara, vous n'avez pas été le seul à faire cette erreur. Il y a beaucoup d'autres journalistes qui ont fait cette erreur. Et je me rappelle avoir entendu celui qui a fait le reportage sur France Inter, qui disait que l'une des sources aussi de son erreur, c'était la pression qu'exerçait Paris sur le terrain. Ça me paraît quand même intéressant, parce qu'en fait, vous avez, et je l'ai constaté souvent aussi dans le journal télévisé, celui qui est dans le bunker, je dis, bon, qui dit, mais vérifiez, parce qu'il a des dépêches qui lui disent ça d'un certain côté, et donc il pousse celui qui est témoin au premier regard à dire ce qu'il a envie qu'on dise.
Bah, les journalistes qui étaient à Timi Chorama, moi je n'y étais pas au début, hein, je vous dis, j'étais plus tard. Mais ceux qui étaient sur place à Timișoara ont été guidés par des personnes, des témoins sur place qui leur disaient qu'ils se sentaient libres. Donc on sentait des gens qui étaient libres, qui étaient libérés du joug du communisme. On avait assisté à la fin du mur de Berlin. Donc on était dans une dynamique de libération, entre guillemets, de l'Europe de l'Est. Enfin, entre guillemets, non, pas entre guillemets. En tout cas, entre guillemets, ça a été en Roumanie, parce que les mêmes personnes sont restées en place après. Mais c'est vrai que les journalistes sont là, dans cette euphorie mondiale, et on leur montre des corps. Ils filment ces corps, on leur dit ce sont des gens qui ont été brûlés, qui ont été assassinés, il y en a plein d'autres, il y a des bulldozers, il y a des trains entiers, etc. Et c'est vrai qu'un œil averti, aujourd'hui, c'était pas averti, mais on verra plus tard, que ces gens-là, en fait, venaient de la morgue. Ils avaient été sortis uniquement pour qu'on les montre à la télévision. Et les journalistes étaient inquiets sur cette histoire parce qu'ils n'étaient pas convaincus sur le terrain, c'est clair. Mais Paris étant en liaison directe, il y avait déjà des téléphones satellites à l'époque. Paris leur dit, mais si, on a la confirmation, il y a l'agence yougoslave, il y a l'agence hongroise qui dit il y a 60 000 morts à Timișoara. Donc, tu nous emmerdes pas et tu fais ton sujet. Et certains journalistes ont refusé, mais je sais que par exemple le journaliste de Libé, je me rappelle plus son nom, avait refusé, mais Paris a corrigé le chiffre qu'il avait donné. Donc là, le témoignage est impossible, parce que là, le journaliste est vraiment témoin de quelque chose de trouble, très compliqué. Et puis c'est vrai qu'on dit il y en a 60 000, mais et si vous les voyez pas, vous pouvez pas être sûr qu'ils n'existent pas non plus. Si on vous dit qu'ils sont partis en train, si on vous dit qu'ils sont brûlés, qu'ils sont dans des fosses communes, donc voilà, on est dans une interrogation. Le problème, c'est qu'il faut donner l'information vite et que Paris, lui, étant en reportage, et ça c'est clair, que les rédactions en chef sont en reportage dans les dépêches d'actualité, en fait, reportage dans les journaux concurrents. Quand je dis reportage, ils sont à la recherche de ce que leur journal aurait pu rater. Ils vont, eux, donner l'information, parce que sinon, ils ont l'air con, quoi, en gros, c'est ça. Bon, là, tout le monde a eu l'air con.
Mais ce qui est amusant, c'est de voir que tout le monde se souvient plus ou moins de Timișoara. Comme vous dites, ça a été un tournant dans la perte de crédibilité des médias, etc. Et à l'époque, personne n'a remarqué, personne n'a remarqué qu'il y avait un autre mensonge beaucoup plus grave que Timișoara. c'était qu'on disait qu'on avait des images en direct, alors que, comme vous l'avez rappelé, c'était des images en direct de la télévision roumaine, oui, mais pas du tout des images en direct de la Révolution, comme le disait à l'époque le présentateur Daniel Bilalian, qui rappelait sans arrêt « Nous sommes en direct avec la Roumanie », et tout le monde l'a cru, avoir vu l'histoire en direct, alors qu'en fait, l'analyse des images montre très facilement qu'il y a un montage et que si ça avait été en direct, il aurait fallu admettre que la Révolution était tellement bien préparé qu'il y avait des quarts de régie qui permettaient de mixer plusieurs caméras au même moment, au même lieu. Ce qui était quand même assez difficile. Mais ça, c'est curieusement, on n'en parle à peu près jamais. On a oublié ce glissement absolument incroyable.
C'est vrai.
Vous pouvez peut-être parler maintenant de ce que
alors,
vous faites.
Justement, la télé libre, pour vous dire que moi, je ne suis pas un donneur de leçons du tout sur mes confrères et mes consoeurs et que je pense que la télévision aujourd'hui est faite plutôt... avec bonne foi par les fabricants d'infos, pas toujours, mais en général, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, la bonne foi. Hein. Mais ça ne veut pas dire non plus que les directions et que la direction des programmes laissent leurs journalistes libres. Nous ne plaçons pas la télé libre en donneur de leçons, puisque nous continuons à travailler, nous acceptons certaines des contraintes, comme je vous disais, sur le montage. Rapide sur le commentaire extrêmement fourni qu'on demande de plus en plus aux journalistes. En gros, on demande aux journalistes d'annoncer ce qui va se passer, de laisser parler la personne le plus court possible et d'expliquer ce qu'on a vu. En fait, on n'a rien compris par soi-même, on a compris par la voix du journaliste. Et la télévision, ça c'est en train de changer, heureusement, la télévision étant un flux d'images, étant une continuité ménagère dans les maisons, parce que quand on l'allume, ça se passe, on est dans un média totalitaire au sens où son but est de vous garder devant pour être là au moment de la publicité. On en est là, vous le savez. C'est vrai que avec la fin de la publicité sur France Télévisions, on peut penser que les choses peuvent changer. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait moins de publicité, il n'y ait plus de publicité à la télévision. Mais, en tout cas, la télévision est fabriquée par, en tout cas, ceux qui la fabriquent aujourd'hui, ceux qui sont les penseurs, pas les penseurs, non, ils pensent pas, ceux qui sont les décideurs, ne viennent plus du monde du journalisme, ne viennent plus du monde de la fabrication, ils viennent des affaires, principalement. Moi, j'ai travaillé à TF1, j'ai travaillé à Canal+, et ces chaînes-là ont complètement ont été bouleversées par les obligations de réussite d'audience. Je trouve ça normal qu'un comédien soit content quand il y a du monde dans sa salle, dans sa classe, et qu'on l'écoute. Et que je préfère que vous soyez 150 aujourd'hui ou 100 que 20. Donc c'est normal, tout le monde s'intéresse à l'audience. Donc voilà, on a fait cette... J'y viens, on est cinq fondateurs, une autre nous a rejoints. On n'est pas que des journalistes. Je suis le seul journaliste. Il y a deux caméramans, un monteur et une directrice de production. Ce qui fait que c'est un média qui n'est pas fait que par des journalistes et donc les préoccupations des métiers sont importantes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne pratique pas à la télé libre, c'est le commentaire. Mais c'est pas du tout un dogme, c'est pas une obligation. Si un journaliste veut venir faire un reportage, il peut faire un commentaire. Mais, de fait, nous essayons de laisser à l'image sa force. Certains diraient sa vérité, mais je n'aime pas ce terme-là. Et aux téléspectateurs, la liberté de se mettre en spectateur d'une image qui va durer plus longtemps qu'à la télévision. Donc voilà pourquoi nous avons des reportages qui sont plus longs, des interviews qui sont longues, nous pensons qu'il faut laisser les gens parler, et un minimum de montage quand il y a un montage dans une interview, nous le laissons apparent pour montrer qu'il y a eu intervention. Nous n'essayons pas de maquiller le montage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de... La télévision a été faite longtemps, au début, par des cinéastes. Je parle des caméramans et des preneurs de son. et également par les journalistes qui venaient de la presse écrite, et ces deux médias, enfin ces deux façons de penser se juxtaposaient. Aujourd'hui, la télévision est faite par des gens d'image qui sont plus multidisciplinaires et comprennent le langage de l'image. Et donc, on peut aujourd'hui, si on le souhaite, si on a la liberté, on a plus de créativité qu'avant. Je ne parle pas de créativité cinématographique, mais journalistique. Bon, voilà, la télé libre présente aujourd'hui 1200 vidéos qui sont disponibles sur notre site. Quand je vous dis on est 4 ou 5, on est 5, mais on a un réseau de 350 professionnels de la télévision, donc principalement des caméramans, preneurs de son, monteurs, réalisateurs, qui collaborent régulièrement pour proposer ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et qui nous proposent des productions, des films, des documentaires, des idées. De temps en temps, on va faire une émission on va demander à 25 techniciens de venir et on va en avoir 40 qui vont répondre. On arrive comme ça, étant tous bénévoles, à peut-être peu à peu à devenir un laboratoire de la télévision. Et certaines de nos émissions intéressent maintenant la télé qui pense nous les racheter. Donc on va devoir nous formater ce produit pour la télé en gardant la version originale sur le site. Voilà l'idée. Nous avons aucun moyen de vivre, donc nous cherchons là où est l'argent, parce qu'il n'y a pas de modèle économique sur Internet. Il n'y en a pas, surtout si on veut qu'il y ait un monteur, un caméraman, un preneur de son et un journaliste comme on a nous. Il n'y a pas un mec qui parle tout seul et qui monte comme ça se fait sur BFM ou sur iTélé. On refuse ça puisqu'on veut respecter les métiers. Mais on a c'est une utopie, c'est clair. Si on était raisonnable, on arrêterait. Mais on est assez peu raisonnable. Mais par contre, on se dit, bon, il y a une manière de vivre aujourd'hui, et on le fait de fait, puisque beaucoup de personnes viennent nous voir, c'est la formation. Et on a aujourd'hui formé 60 à 70 personnes en 2 ans, qui ou sortent d'école ou ne sortent pas d'école, et qui sortent du bac, ou même pas le bac, et qui vont, en fait, avec nous apprendre ce langage important, capital, qu'est l'audiovisuel. Et donc voilà, nous avons en projet de faire cette école populaire de la télé libre, ouverte aux journalistes, mais aux citoyens, aux blogueurs, à ceux qui veulent maîtriser cet outil avec un regard critique, éthique et une maîtrise technique. Voilà. Et c'est quelque chose dans lequel on croit.
Bien. Merci. Alors, pour terminer, je vais céder la parole à Marie-Josée Monzin, qui est philosophe et directrice de recherche au CNRS, qui poursuit une réflexion sur l'image depuis pas mal d'années maintenant. Oui, ça va marcher, t'inquiète pas. Mais qui est marquée dans le programme comme discutante. Alors, je sais pas exactement de quoi, si c'est de la fin ou du dernier panel, ou si c'est de l'ensemble. Mais en fait, je pense que tu vas faire ce que tu veux. Donc tu vas discuter comme
souvent,
tu l'entends.
Oui, ça voilà. Souvent comme ça. Mais, oui, discutant. C'est, oui, pour discuter, pour débattre, articuler à ma façon peut-être, la façon que j'ai eue d'entendre ce que j'ai entendu depuis le début de l'après-midi. Mais c'est magnifique que vous ayez été le dernier à parler et que vous ayez commencé en disant « je ne suis pas de votre monde ». J'avais vraiment l'impression que, enfin, j'entrais dans... Ça y est, on était dans notre monde. C'est le monde que nous partageons. Et s'il vous plaît, considérez que nous sommes non seulement de votre monde, mais que vous avez témoigné par votre action, avec la création de ce que vous venez de décrire, le fait que vous prenez en charge au sérieux la relation que nous avons, nous, avec notre monde. Voilà. Hein, que je trouve ça tout à fait magnifique et stimulant, et je trouve ça très beau que ça arrive comme ça à la fin. Ça aurait pu arriver au début, mais peut-être que certains en auraient peut-être perdu la parole. Je ne sais pas. En tous les cas, je dirais comme réaction à ce que je viens d'entendre et au colloque d'une façon générale, que ce colloque, comme ce qu'on vient d'entendre, nous permet de dire que nous sommes en pleine crise. Et je ne prends pas ce mot à la façon dont il est en ce moment, une sorte de furet qui passe de main en main et de bouche en bouche, mais une crise de la profession. Et il y a eu au Théâtre de la Colline, il n'y a pas longtemps, des états généraux de la situation des journalistes et de l'audiovisuel et de cette profession. Il y a une crise et c'est très important que vous ayez fait allusion aux pressions à la fois commerciales et politiques, au fait que vous êtes en pleine lutte, au fait que nous partageons ces luttes, là où nous sommes, que ce soit dans la recherche, dans l'éducation ou dans la santé. Donc nous partageons une lutte, donc nous sommes d'autant plus dans ce monde. Il y a une crise et que vous avez prononcé le mot liberté, qu'il était bon qu'on l'entende, c'est-à-dire que vous exercez un métier et tout ce colloque tourne autour d'une profession, hein, de celles qui produisent des images et qui produisent qui font voir et qui font savoir et qui en faisant voir voudraient faire savoir et donc exigent de le faire en toute liberté, c'est-à-dire en subissant le moins possible de pression, de formatage, d'accélération, de chute de budget, de précarité dans le métier, etc. Et je ne rentre pas dans le détail. Mais je veux dire que ça fait partie de ce dont on parle aujourd'hui, à savoir que pour qu'il y ait une éthique, pour qu'on puisse se parler d'une éthique dans cette profession, eh bien, il faut, toute éthique présuppose une conception de la liberté. Et cette liberté est en danger. Donc je crois que on l'a bien entendu dans votre intervention. Et de l'autre côté, il était question non pas de la profession, alors là, mais il était question de l'autre pôle de la journée, autre pôle, au pôle éthique, qui est celui de l'objet produit, ou de ce qu'on croit être un objet et qui finalement n'en est pas un, puisque de toute évidence, surtout avec ce que vous avez exposé, cet objet, d'ailleurs, on l'entendait bien aussi ce matin dans l'exposé de Madame Selitzer.
Ce matin. C'était le matin.
Oui, oui. Non, quand il faisait jour. Quand il faisait encore jour. De Madame Selitzer, c'est que cette chose qui s'appelle image et qu'on prend pour un objet est extrêmement fragile, labile, indécidable, soumise à des fluctuations, soumise maintenant techniquement à des décompositions, à des réajustements, à des manipulations. Bref, les faits sont têtus, c'est vrai, et ça, Annette Viviorca nous l'a bien dit, hein, le factuel, il est têtu, l'image est sans entêtement. L'image, elle se laisse faire. Et ça, je crois que vous l'avez fait entendre. Les faits sont têtus, l'image ne l'est pas. Donc c'est embêtant de confier à une image qui n'est pas têtue l'obstination des faits. Et il y a là une tension, il y a là une crise qui n'est pas d'aujourd'hui, qui relève même de l'histoire des images et du soupçon sous lequel elles sont tombées depuis l'Antiquité, à savoir qu'on ne peut pas faire confiance à cette affaire-là, parce que quand on veut savoir des choses, il vaut mieux les faire savoir que de passer par ce médium ou cet objet qui s'appelle une image et qui, quoi qu'on fasse, est un objet de croyance. C'est-à-dire que c'est la question de la croyance qui est au cœur de celle de l'image. Même quand une image nous fait savoir quelque chose, même quand elle nous fait savoir quelque chose de vrai, elle nous demande d'y croire. Et c'est ça qui est troublant. C'est qu'en présence de l'image, nous devons croire. Et c'est le fait que l'image appartenant exclusivement au régime de la croyance, d'ailleurs dans le domaine de l'imagerie scientifique, il y a un véritable travail à faire pour que ces images se tiennent à l'intérieur d'un corpus scientifique, épistémologique, médical. Voilà, il faut que on les fasse parler et qu'on contrôle ce qu'on leur fait dire ou qu'on sache les codes par lesquels on la fait passer. Donc le fait que l'image relève de la croyance, nécessairement, je crois, pose la question de l'éthique en dehors de celle de la profession qui a été clairement posée, pose la question de l'éthique non pas en termes de vrai ou du faux, Une image n'est jamais ni vraie ni fausse, mais en termes de la liberté, disons, de la position subjective, là vous l'avez clairement exposé, de la responsabilité de son origine et du statut de dignité et de liberté conféré par cet objet à celui à qui il s'adresse. Il n'y a pas que la question de la liberté dans la profession, il y a la question de la liberté du regard à qui l'image s'adresse. Est-ce que je considère celui à qui je fais voir le monde et à qui je demande d'y croire est un sujet de parole, un sujet parlant, digne d'être considéré comme libre, intelligent et digne de se réapproprier son jugement et ses facultés critiques. Autrement dit, la question de l'éthique dans l'image ne me semble pas, en vous ayant tous écouté, relever de la véracité de l'image, mais du type de relation qui s'instaure entre un auteur qui assume ce qu'il montre et de la ponction qu'il aura faite sur un monde, et du régime, de la place, comme le dirait Bergala en travaillant sur le cinéma ou sur le documentaire, parce que la question du cinéma documentaire est présente aussi dans le journalisme, c'est de savoir quelle est la place que l'on fait au spectateur, à l'auditeur, à celui à qui on s'adresse. Je rappelle à l'envi toujours cette phrase de Lacan qui pour moi est comme un amer. Lacan disant « le style, c'est l'homme ». Et il imitait en ce genre, il paraphrasait en disant ça Buffon. Le style, c'est l'homme, simplement il ajoutait à qui l'on s'adresse. C'est-à-dire que la forme que l'on donne à ce que l'on fait implique, indique, est marquée par le régime de la relation qu'on instaure avec celui à qui l'on s'adresse. Le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si la profession de journaliste exige que nous défendions leur liberté et que nous soutenions leur lutte pour avoir cette liberté, c'est pour qu'ils puissent justement continuer à s'adresser à nous comme à des sujets libres, en possession de leur faculté de parole, de leur faculté critique, de discrimination et de débat. Donc moi, c'est cela que j'ai retenu de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure, François, que la sémiologie avait pris, s'était largement occupée de la réification.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Tu as dit la réification, ça fait longtemps qu'on s'en est occupé.
Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Tu as dit quoi ?
Non, j'ai dit que dans ce que Cédric condamnait un petit peu, qui dirigeait son propos, c'était la sémiologie des années 60 et que depuis elle avait beaucoup évolué et qu'on ne réifiait plus du tout.
C'est la réification l'image. Par voilà, la sémiologie. Voilà, oui, voilà, d'accord.
Non,
parce que c'est en quoi je te sautais sur le poil.
Eh bien oui,
Oui. Bon, et donc, je ne veux pas parler longtemps, mais disons, j'avais envie de placer comme ça quelques réactions, quelques échos qu'ont en moi toutes ces paroles. Et j'étais très sensible aussi bien dans ce qui a été dit à l'instant qu'en début d'après-midi, quand il faisait encore jour. C'est concernant la gestion du temps. La profession des journalistes demande à ne plus être soumise au formatage, aux accélérations, demande la revendication, comme vous l'avez dit, du plan séquence, hein, exactement comme la lenteur, la patience, mais aussi parce que dans le travail, mais aussi parce que les spectateurs, et là, ça a été dit, revoir deux fois les choses, hein, tu l'as évoqué, la réhabilité, la temporalité de la pensée, la patience, la décélération, la décomposition. En ce sens, les instruments techniques que nous avons aujourd'hui d'enregistrement nous permettent justement de disposer parfois de documents qui nous permettent de les réanalyser. Alors, évidemment, il y a le cas, comme vous le dites, troublant, hein, de Rodney King, où tout d'un coup, tous les instruments de décomposition de l'image... Eh ben, oui, ben, écoutez, ça fait partie des risques qui existe dans l'usage que l'on fait des choses, c'est que on reconnaît par là même que l'image n'est pas une preuve, que l'image n'est pas têtue, qu'elle est particulièrement docile, molle, et que elle ne devient une image forte que dans la mesure où j'y reconnais la marque de son auteur et le mode sur le... Alors c'est vrai que ces images qui ont été prises comme ça par ce jeune homme, eh bien elles étaient à la fois marquées par sa présence et l'attestation subjective de sa présence, attestées par sa parole. Il vient et il dit: je jure que c'est bien moi qui les ai prises et que j'étais là. Mais du coup, on revient à la crédibilité de sa parole. Voilà. Et donc, du rapport qu'a sa parole à ceux à qui il s'adresse. Finalement, l'image n'est rien dans tout ça. Donc, ce qui m'a touché dans ce qui a été dit aussi, alors dès le début, à travers les évocations de Sylvie et d'Annette, sur la question du témoignage, du pourquoi, et puis pourquoi est-ce qu'on a besoin du témoignage, je dirais aussi, en entendant tout ce qui s'est dit, que ça m'a poussé à poser la question: qu'est-ce qui nous arrive quand quelque chose arrive à un autre, très loin, pas vu, ou est arrivé il y a très longtemps? De quelle façon les choses nous arrivent-elles? Pas simplement par quels moyens elles nous arrivent, ce sont toutes les nouvelles techniques, mais qu'est-ce qui nous arrive au sens où, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Où est-ce que ça me prend? Cette question de l'émotion, hein, du régime émotionnel qui a été aussi évoquée, même à dire, ça, j'étais un peu gênée quand Serge Tisseron, mais on ne peut pas ouvrir un débat avec un absent, mais quand même, quand il dit qu'un présentateur n'est rien d'autre qu'un mode d'emploi émotionnel, je trouve ça particulièrement violent. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est avec lui que je préférerais en discuter. Mais ça fait mal. La présence de chacun à côté de l'image, derrière l'image, commentant l'image, doit répondre. Il faut répondre de sa présence. Voilà. On n'est pas là uniquement pour faire de la balistique et pour savoir de quelle façon, comme des souris dans un labyrinthe, de façon pavlovienne, un battement de cils ou les lèvres d'une journaliste légèrement tremblante en voyant des tours qui s'effondrent vont tout d'un coup nous mettre dans un état où les ondes alpha nous font mettre dans un état de crise et on est devant le plus pensable, ce qui n'est plus pensable. C'est-à-dire que si vraiment il s'agissait d'une gestion émotionnelle, on sait ce que ça a donné, c'est devant des événements d'une extrême violence et provoquant une extrême douleur, d'entendre les esprits les plus responsables dire on est devant l'impensable, au lieu de prendre en charge la mise au travail de la pensée collective face à cette grande douleur. Donc c'est ce que je voulais dire. Et donc je citerai pour terminer, même si je n'ai pas parlé trop longtemps, non, juste pour terminer, un livre que j'ai lu et qui me touche infiniment, justement sur comment arriver à penser, parce que ça a recoupé aussi votre intervention, c'est le rôle de l'imagination par rapport aux images. C'est le livre de Günther Anders, Hiroshima est partout. Peut-être un grand nombre d'entre vous l'ont lu. Et où ce que dit Anders dans ce livre absolument bouleversant, c'est qu'il est allé voir sur place, il y a eu les images, il y a les musées avec les photos, les musées qui se constituent avec les objets, les personnes carbonisées, enfin ces choses. Voilà, tout est là. On le sait. Et il dit qu'il y a dans ce phénomène de Hiroshima et de Nagasaki quelque chose que l'on sait et auquel on n'ose on n'arrive pas à croire. C'est-à-dire qu'il dépasse l'imagination. Et tout son travail de philosophe et d'homme de terrain, qui considère qu'un philosophe doit être, n'a droit à ce nom dans sa dignité que s'il devient un homme de terrain, ben, c'est de précisément voir comment, en se promenant à travers ces villes et en revenant, il peut mettre à la portée de l'imagination du monde entier l'idée que non seulement nous savons qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki et que tout est là, on peut voir à l'envi, jusque derrière des vitrines, mais qu'il faut que nous croyons, justement, que, comme il dit dans son titre, Hiroshima est partout, c'est-à-dire que quelque chose de l'humanité est désormais en danger, hein, ce qu'il appelle l'obsolescence de l'homme. L'homme est en train de disparaître. Il est en train de disparaître dans la mondialisation, il est en train de disparaître dans toutes les formes commerciales de la barbarie et de la communication. Quelque chose de l'humanité peut faire dire à un philosophe, l'homme est en train de disparaître. Et il dit, dans son travail sur l'information autour de la plus grande catastrophe qu'a été Hiroshima et Nagasaki, qu'il va falloir gérer à la fois l'information et l'imagination pour que nous puissions croire et qu'il continue à nous arriver quelque chose alors que c'est révolu. Et que même on a reconstruit, hein, Hiroshima est une ville moderne, Nagasaki, etc. On recouvre. On fait un musée, on fait des livres, on montre des photos, et puis on reconstruit dessus, hein, sur le ground zéro de toutes les catastrophes. Et puis, sur ce monument, on produit de l'oubli. Et en ce sens, je pense que la question de les rapports entre image et imagination que vous avez évoqués, c'est-à-dire entre faire savoir et faire croire, renverse le problème, c'est-à-dire que l'image est à la fois rien du tout, et qu'en même temps, en elle, se joue une crise éthique de première grandeur, c'est qu'effectivement, c'est en partageant de la croyance que nous construisons de la communauté. C'est pas en partageant du savoir. Nous savons tous les mêmes choses. C'est en partageant de la croyance que nous construisons de la démocratie. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé pendant 2 ans avec des enfants en école primaire pour faire un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que tu vois ?» Et les enfants m'ont dit, un certain nombre d'enfants m'ayant dit « on a envie d'être journaliste et photojournaliste », on a travaillé donc en CE1 et CE2 sur cette question. Et finalement, ils ont dit des choses tout à fait magnifiques et très claires en disant ben, « quand j'irai dans un pays lointain, je prendrai des images » et je ne pourrais pas tout montrer. Je serais obligée, en ramenant les images, de dire ce qu'il y a à côté de l'image et qui n'est pas dans l'image. Et puis, je serais obligée de dire que je n'ai peut-être pas tout vu. Mais je dirais quand même ce que j'ai senti en prenant cette image. Et puis, on en parlera ensemble. Et puis, peut-être les gens me croiront. Et ils ont eux-mêmes produit cette différence en disant... On veut pas, parce qu'ils ont des parents qui souvent leur disent devant la télé, on peut plus croire du tout ce qu'il y a à la télé, c'est tout des mensonges. Et ils ont dit, ben, est-ce qu'on peut pas faire confiance ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une image digne de foi ? Ben, c'est une image qui est assumée à la fois par son auteur et qui donne à celui qui s'adresse les moyens de construire ensemble en parlant ensemble, le sens toujours en mouvement de ces images. Voilà, je voulais juste dire ces petites choses-là.
Merci Marie-Josée. Bon, c'est le temps des conclusions est arrivé. Alors je ne vais pas conclure sur ce que tu as dit parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais surtout essayer de passer la parole à la salle rapidement. Mais avant ça, excusez-moi, Jean-Paul Lepers a oublié de montrer un document qu'il voulait nous montrer tout à l'heure, qui est, semble-t-il, très lié à ce que vient de dire Marie-Josée Monzin. Donc, si, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait à la technique, etc., mais si la technique peut montrer ce document, on va d'abord voir ce document et après faire la discussion.